maintenant, j'en viens à, je dirais, la deuxième partie de mon exposé. Bon, ça c'était un peu ce qu'on met dans son assiette. Maintenant, bio ou pas bio. Bon, j'espère que vous êtes convaincus qu'il faut que ce soit bio, mais c'est un peu intéressant de rappeler pourquoi. Tout le monde le sait, donc je vais passer vite. Hein. Bon, d'abord, il y a les pesticides. C'est quand même le problème majeur des produits non bio. Alors, vous voyez là les différentes barres, c'est les différentes familles de fruits et légumes en fonction des quantités de pesticides qu'elles contiennent. Ben, ça permet, si on ne veut pas tout, absolument tout manger bio, de savoir ce qu'il faut manger bio en priorité, c'est-à-dire les fruits, absolument, en particulier les baies, hein, les fraises, les framboises, les agrumes. Certains légumes, comme le poivron par exemple. Bon, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pesticides dans les oignons ou dans les fruits oléagineux, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas mieux de les manger bio. Hein. Ça, c'est de soi. Alors, des pesticides, il y en a dans les aliments, on vient de le montrer, encore, bon, je reviendrai tout à l'heure, mais il y en a partout, il y en a dans l'air. Par exemple, le lindane, qui est un insecticide interdit depuis au moins une quinzaine, une vingtaine d'années, on en trouve toujours dans l'air, on ne sait pas très bien d'où il vient. On en trouve. Une expérience qui m'avait frappé, qui a été faite en Île-de-France. Les chercheurs, ils ont eu l'idée d'essuyer les mains d'un groupe d'enfants avec du sopalin, en fait, des enfants, pris au hasard. Un enfant sur deux, il y avait des pesticides sur leurs mains. D'où ils viennent, on ne sait pas très bien. La moquette est un parfait piège à pesticides, que ce soit ceux qu'on utilise à l'intérieur ou que ce soit ceux qui rentrent par la fenêtre, des agriculteurs. Donc dans les chambres d'enfants, moi je suis pas dans la chambre en général, mais surtout dans les chambres d'enfants, ben, je pense qu'il vaut mieux éviter la moquette. À moins d'habiter dans un endroit où, peut-être que c'est le cas ici, je ne sais pas, c'est un peu plus le cas ici qu'ailleurs, où il y a peu de traitements, peu de pesticides dans l'air. Donc là, c'est moins grave, je dirais. On trouve aussi des pesticides. Il y a deux moyens de savoir ce qu'on absorbe comme pesticides. Soit on regarde ce qu'il y a dans les aliments, mais on fait des savants calculs quand on, en fonction de la proportion des différents aliments. Soit, ce qui est beaucoup plus simple, sauf que on détermine plus mal l'origine, ce qu'il y a dans le corps. Ce qu'il y a dans le corps, on le mesure soit en analysant ce qui en sort du corps par l'urine, et on constate, là c'est une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, quelques années en France, que dans l'urine de tout 90 à 80 à 100% des Français, il y a des pesticides, des résidus de pesticides, parce qu'on en absorbe bien, enfin peut-être pas vous, peut-être pas moi, parce qu'on mange bio, ben, si vous mangez bio, mais quand on mange pas bio, c'est clair. Après, il y a l'histoire, l'autre, mais je reviendrai tout à l'heure, je vous ai peut-être vu passer dans les médias, l'analyse des cheveux, on a trouvé aussi pas mal de produits indésirables dans les cheveux, dans des analyses récentes. Voilà, mais j'y reviendrai. Impact sur la santé, bon, on les connaît, hein, j'ai pris cet exemple parce que là, il s'agit des pesticides domestiques. Si vous avez un jardin, ou si vous êtes embêté par les insectes, les poussiques ou je ne sais pas quoi chez vous, attention aux pesticides. C'est une étude, des rares études françaises qui a été faite sur ce sujet, qui montre qu'il y a deux fois plus de cas de leucémie chez l'enfant dans les familles où on a utilisé des pesticides, soit au jardin, soit à la maison. Alors ça, c'est vraiment la première chose à éliminer. Bon, même chose, quand les enfants... Alors ça, c'est un problème qu'on pourrait développer, on n'a pas le temps. Le problème de ce qui se passe pendant la grossesse. Et par exemple, l'augmentation du risque de cancer chez les enfants en fonction de l'exposition de la mère aux pesticides. Donc très souvent, comme le développement fœtal est une période, je dirais, extrêmement sensible, c'est pas la maman qui va souffrir, qui va subir les conséquences d'avoir été exposée aux pesticides, ça va être les enfants. Donc il faut faire très attention pour les femmes enceintes, plus particulièrement encore que d'autres, d'éviter les pesticides et donc
boulangers bio.
Sur un groupe de personnes, plus il y avait de DDE, c'est le produit de dégradation du DDT, l'insecticide qui a été utilisé massivement jusque dans les années 70. On n'en trouve plus, mais on trouve son métabolisme, qu'on appelle le produit de dégradation, et que plus les femmes, enfin les personnes là, dont le sang a été analysé, avaient des DDE dans leur sang, et plus elles étaient souvent diabétiques. Bon, c'est un exemple, il y en a d'autres dizaines d'autres, ça prouve simplement que le diabète, bien sûr, c'est une mauvaise alimentation, mais que la présence de polluants chimiques, et en particulier de pesticides, aggrave et augmente le risque. Ça, c'est pas si vous avez lu ça récemment, c'est pas mal repris par la presse, donc c'est l'association Génération Future qui a fait analyser les cheveux de 28 femmes de la région parisienne, en recherchant 64 substances, ils auraient pu en chercher beaucoup plus, mais après ça coûte trop cher, suspectées d'être des perturbateurs endocriniens. Enfin, si ce terme vous dit quelque chose, mais très très schématiquement, les perturbateurs endocriniens, ce sont des produits chimiques, il y en a beaucoup, il y a les pesticides, il y a les bisphénols A, il y a les phtalates, il y a tout ce que vous voulez, qui agissent à des doses infinitésimales, très inférieures, même 100 à 1000 fois inférieures à celles qui étaient considérées comme sans effet par les toxicologues jusqu'à une période récente, parce qu'elles prennent la place des hormones, elles perturbent l'action des hormones pendant la grossesse, et tout le développement de l'enfant à naître, en fait, se détermine en grande partie pendant cette période. Et donc, là, ils en ont retrouvé en moyenne 21 perturbateurs endocriniens différents, dont 19 pesticides en moyenne dans les femmes. Alors ça, j'en terminerai avec les perturbateurs. Il y a un véritable scandale, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous le suit un peu ça, au sujet de ces perturbateurs endocriniens. Et cette étude qui vient de sortir ce mois-ci, qui est fait par une équipe de scientifiques, qui estime que le coût des perturbateurs endocriniens, qui l'ont évalué aux alentours de 150 milliards d'euros par an, le coût pourquoi ? Eh bien, le développement de certaines pathologies, perturbations du développement intellectuel, problèmes de reproduction masculine, problèmes d'obésité, de diabète, etc. Et le vrai scandale, c'est que ce sont des substances qu'on connaît depuis plus de 20 ans, et qu'on connaît leur type d'action et le niveau auquel elles agissent. Mais il y a eu toute une bagarre, si je peux dire, entre les écologistes et les lobbyistes de chimiques au niveau de Bruxelles. À Bruxelles, ils avaient enfin décidé, en 2013, qu'on allait un peu regarder. On allait établir une liste de perturbateurs endocriniens et puis réglementer leur utilisation. Mais deux ans après, on est toujours au même point, parce qu'entre-temps, il y a des gens, évidemment, l'industrie est allée derrière, qui a dit « oui, mais on n'en sait pas assez, et puis quels sont les dégâts économiques que ça va provoquer si on interdit ces substances-là ». Donc bref, il est urgent d'attendre. Bon, ça c'est le raisonnement, je dirais, le raisonnement de tous les lobbies. Chaque fois qu'il y a eu, que ce soit le tabac, que ce soit l'amiante, n'importe quoi, chaque fois qu'il y a eu une masse d'informations scientifiques qui montraient clairement, je dirais, la toxicité, le danger pour la santé, c'est je dirais, la stratégie du doute. C'est des gens qui vont toujours trouver une ou deux études, ou les fabriquer à la rigueur, qui disent le contraire. Ils disent, ah oui, mais tant qu'on n'est pas certain à 100%, bah, attendons, on peut attendre longtemps, malheureusement. Bon, le spermatozoïde, c'est l'exemple, je dirais, le plus classique. La densité du spermatozoïde a été divisée par deux à peu près dans 50 ans. Ce qui est plus inquiétant, c'est que les études récentes, vous voyez, si vous lisez juste la première ligne, c'est que la quantité, ou les deux premières, la concentration du sperme humain en spermatozoïde a baissé de 30% en 17 ans. Alors, si on prolonge la courbe, dans 50 ans, il n'y en aura plus, hein, peut-être même avant. Bon. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Et en plus, le peu qui reste, ils sont en très mauvais état. Il n'y en avait plus que 26% qui étaient en bon état, c'est-à-dire mobilité, etc., forme normale, en 2009 contre 67% en 1967. Voilà. Bon.